Bonjour, vous écoutez Maghrebin Past and Present Podcasts. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré au Maroc en février 2020 et s'inscrit dans le cadre du projet Archives d'histoire orale de la production intellectuelle maghrébine, co-organisé par l'Institut américain d'études maghrébines, AIMS, et l'Observatoire de la souveraineté alimentaire et de l'environnement, OSAE. Dans ce podcast, Habib Ayeb, professeur émérite de géographie à l'Université de Paris 8, s'entretient avec Mohamed Mehdi, sociologue ruraliste marocain, ex-professeur à l'École supérieure d'agriculture à Meknès, au Maroc.
Histoire orale de la production intellectuelle en Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie.
On est aussi chez toi. Et donc, pour toi, c'est quoi ici? On est où ici pour toi?
Alors ici, c'est une maison familiale. C'est mon père qui l'a construite en 1953. C'était une maison en pisé. Et donc, on venait ici les vacances, tous les 3 mois de vacances. À l'époque, on avait 3 mois de vacances. Et après, bien sûr, quand on a grandi, les liens se sont un tout petit peu rompus avec ces lieux. Et mon père continuait toujours à fréquenter. Et donc... entretenir aussi la maison, parce que pour entretenir, il faut habiter. Et du coup, cette maison a pu se conserver. Et disons, d'abord, moi, j'ai pas coupé vraiment les liens avec le pays, parce que en 1979-80, j'ai fait un mémoire de fin d'études, ça s'appelait à l'époque DES, des plans des études supérieures. Sur la tribu, c'était une monographie, à la fois d'histoire, un peu d'histoire orale, mais aussi sociologique sur cette région. Et après, j'étais parti, avec mes activités universitaires, et j'ai un petit peu rompu parce que j'avais d'autres terrains sur lesquels je travaillais, notamment les Rirayas, notamment les gens de l'Oriental, etc., les nomades de l'Oriental. Et puis, il y a une douzaine d'années, j'ai commencé à revenir au pays, et puis on m'a dit qu'il y a des associations qui font des choses pour le pays, etc. Et je peux dire que moi aussi, je fais partie de toute cette génération d'académiciens, d'universitaires originaires de certaines régions qui veulent faire des choses pour leur pays. Et c'est comme ça que j'ai commencé à revenir doucement, ayant moi-même une autre étiquette, c'est que je suis aussi membre d'une association très très bien connue au Maroc, qui est l'association Telga Aide. Aide veut dire tout simplement association interdisciplinaire pour le développement et l'environnement. Et nous avons beaucoup travaillé juste ici, pas très loin, à Lounen. Et Lounen, c'est un endroit où le travail, avec les populations, le travail de développement, on faisait de la recherche-action, a été initié par Feu Paul Pascan. Et donc, c'est lui qui a initié ce genre d'activité, que nous avons, nous, tout un groupe d'amis, d'enseignants. Je peux citer Mohamed Tawzi, Arslan Bahman, Aziz Lairaqi, Mohamed Samim. Et nous avons continué à travailler dans le même sens. Et du coup, c'était un petit peu plus ou moins un peu facile pour moi de retourner, parce que j'ai quand même acquis une petite expérience de travail avec les populations, que ce soit ici à Lounen, mais aussi dans le nord de Maroc, avec les pays Jubala, et c'est comme ça un petit peu que j'ai commencé à essayer de travailler ici, à la faveur, bien sûr, d'associations qui existaient déjà. C'est comme ça que je fais mon retour au pays. Et du coup, pour cette maison, j'ai fait aussi un retour vers la maison parce que, étant, on l'a conservée, on a conservé la structure qui est empisée, les toits en bois, mais juste, nous, on a un petit peu amélioré, pour mettre, un minimum de confort, et depuis ce moment, j'ai rêvé à ce que cette maison soit une maison de la famille, soit une maison des amis, soit une maison aussi des universitaires, des chercheurs, et c'est comme ça qu'on accueille, que j'ai accueilli jusqu'à présent pas mal d'étudiants qui veulent faire leur stage ou leur mémoire de fin d'études, et voilà, et c'est comme ça que j'ai le grand plaisir d'accueillir aussi le ZAE pour ce voyage d'études que j'espère va être très instructif pour vous.
C'est l'évidence même que ça sera très instructif. Mohamed, tu as prononcé au moins à 3 reprises le mot tribu.
Oui.
Pour des Tunisiens de ma génération, au moins, et même pour les plus jeunes, le mot tribu avait quasiment disparu de notre vocabulaire, vu que les choix politiques ne se sont pas faits dans la même direction sur cette question-là précise. Ok. Quand tu parle de ta tribu d'ici, et moi, est-ce que tu peux nous donner la nuance personnelle presque affective, mais aussi la question est aussi au sociologue.
Oui.
C'est quoi la tribu?
Oui. Alors, je voudrais juste dire quelque chose parce que pour la Tunisie, parce que quand même j'ai fréquenté pas mal la Tunisie, grâce à toi, mais grâce aussi à d'autres copains. Si la tribu a disparu du vocabulaire, moi je pense pas qu'elle a disparu de la réalité. Et donc on l'a vu autour de l'organisation de l'eau, les associations et tout ça. Et chez nous, la tribu, je peux dire tout simplement que c'est des gens qui se reconnaissent une ethnicité, qui se reconnaissent une origine commune, même si ce n'est pas toujours réel, mais c'est très souvent fictif, qui se reconnaissent à un nom. Par exemple, ici, Elgin, ce n'est pas un nom de c'est pas un nom de personne, c'est tout simplement un mot qui veut dire, qui vient de Tirgit, qui est la braise, c'est par rapport à leur caractère un peu belliqueux, etc. Mais c'est des gens qui se reconnaissent dans ce nom, mais si on regarde à l'intérieur, il y a aucun lien généalogique qui lie les gens. Et pour trouver les liens généalogiques, il faut vraiment descendre vers le lignage. C'est là où on peut trouver, ou vers un doigt, c'est là où on peut trouver des liens vraiment de sang qui lie les gens. Mais c'est un sentiment d'appartenance qui fait que les gens se reconnaissent à ce nom et ils sont prêts à se solidariser pour des questions. Avant, c'était des questions militaires, mais maintenant, on trouve que les gens se solidarise pour construire la route que vous avez prise depuis Taroudin jusqu'ici. Les gens ont beaucoup participé, je crois, avec quelque chose comme un tiers du budget qui est colossal. Et là, je retrouve moi la tribu qui est une réalité, voilà, qui permet à des gens de se mobiliser, qui est une réalité mobilisatrice. Et je limiterai la tribu à ça. C'est-à-dire des gens qui se reconnaissent une certaine ethnicité, une certaine histoire, mais du moment qu'ils peuvent se mobiliser pour une raison ou une autre, moi, pour moi, la tribu est là. Que ce soit politique ou que ce soit pour l'intérêt économique ou pour le développement, la réalité tribale continue à exister dans ce sens-là.
Et est-ce que la tribu, en tant qu'unité, la tribu, peut être un acteur de développement, un élément de développement?
Quand il y a des enjeux qui se jouent au niveau de la tribu, par exemple la route qui va concerner tout le monde, oui, là, vous pouvez mobiliser la tribu parce que tout le monde a intérêt à ce que cette route arrive et dessert tout le monde. Quand il y a un intérêt politique qui sait, et s'il y a un parti ou un groupe qui arrive à mobiliser tous les gens, effectivement, oui, la tribu va exister. Autrement, les gens, voilà, ils sont dans des unités un peu plus réelles, comme le droit. La vraie mobilisation actuellement, je peux dire, c'est au niveau de droit qu'on la trouve. qui est une réalité socio-territoriale, socio-territoriale et économique, qui permet encore l'existence d'un certain nombre ou de certaines formes de solidarité autour de la gestion de l'eau, autour de la gestion des parcours, autour de la gestion des lieux de culte, notamment la mosquée, etc. Et donc là, on trouve. Et maintenant, il y a les associations qui prennent un peu le relais exactement, et qui essayent de continuer à travailler pour le développement de cette communauté qui est la communauté d'Ouar. C'est là où il y a encore vraiment on peut dire ça, l'esprit tribal ou le tribalisme. C'est-à-dire agir par rapport à une appartenance, agir par rapport au fait que vous constituez une communauté, que vous avez des liens, etc., que vous avez des intérêts communs.
Pour ton espace, ici, d'origine, là où t'as grandi, si j'ai bien appris ma leçon au bout de 2 jours de visite et puis des lectures quand même, je connais de ce que t'as fait plusieurs années. Est-ce que ce serait juste de dire que la tribu, ta tribu, est organisée autour de l'eau comme propriété commune, comme bien commun?
Non, on peut pas dire ça. Non, on peut pas dire ça parce que l'eau est organisée à des niveaux infra, vraiment infra, et même infrafraction. Ce qui peut être encore réel pour la fraction, c'est un peu les parcours. Mais la réalité tribale n'a plus une existence politique comme avant. Et tout à l'heure, tu as vu que j'ai expliqué à certains des membres de l'USAI comment auparavant, même cette réalité tribu, qui est la tribu des Aguita, a été divisé en groupes alliés, en lef, comme on les appelle ici, c'est-à-dire en groupes alliés entre eux, et qui se divisent un petit peu la vie politique. C'est-à-dire que tout le monde n'appartenait pas à la même, à la même équipe, comme pour reprendre l'organisation actuelle des équipes, etc. Et donc, il y a la tribu est divisée en deux, selon l'appartenance des uns et des autres. Et la vie politique, auparavant, ça se passait comme ça, entre des lefs opposés. Les deux lefs opposés, ça a été étudié par Robert Montagne, ça a été étudié par Jacques Berck, etc. Et on continue à avoir des petites réminiscences de cette organisation par lefs dans certaines régions, notamment dans le sud du Maroc. Ici, un peu moins, ça arrive sur le temps de la rigolade ou de la taquinerie, mais c'est tout simplement pour rappeler des choses qui ont existé auparavant. C'est pour dire tout simplement que la tribu n'était pas une unité politique homogène, c'est-à-dire elle était traversée par des tensions entre groupes opposés. Et il y avait 2 groupes opposés, il y a Kzoult, il y a Habgatz, qui sont très connus et qui étaient très fiers de leur appartenance. Et à chaque fois où il y a un conflit, il y a tous les groupes qui font partie d'un lef qui vient défendre l'individu ou le groupe qu'ils estiment être attaqué ou être lésé ou être, voilà. Donc, c'est une réalité assez complexe. Qui ne veut pas dire que tout le monde était logé à la même enseigne. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'était pas très homogène et donc c'était traversé par des tensions et des conflits. Voilà. Et toute la vie, c'est ça qui explique un peu la vie politique ici à l'époque. Voilà.
D'accord. Mais moi ce que je vois, c'est que ce qu'on peut appeler agriculture.
Oui.
Ok. La partie agricole. Oui. Des cultures, des saisons différentes et ainsi de suite. Le tout est unifié par un réseau d'eau, parce que on est dans une région plutôt aride, hein. Il n'y a pas beaucoup de pluie, mais il y a la source d'eau qu'on a vue hier, qui est la source principale, et puis il y a d'autres quelques résurgences dans la montagne, au flanc de montagne, le village étant adossé à la montagne. Okay. Donc, derrière, avec les changements qui ont eu lieu pendant les années 80-90, mais derrière, il y a toujours eu une forme d'organisation plus ou moins, qui marche plus ou moins bien, mais une forme d'organisation sociale autour de l'eau. Oui. On peut dire qu'il y a une gestion sociale de l'eau.
Oui. Oui.
Est-ce qu'on peut traduire par, est-ce qu'il y a une gestion tribale de l'eau?
Oui, il y a une gestion tribale de l'eau, mais qui se passe au niveau de l'unité d'Ouar. Ou à la limite de d'Ouar. En tout cas, chez moi ici. Et comme vous avez vu, nous sommes dans une vallée où tous les douars, il y en a 6 qui sont tous adossés à la montagne et ils ne se trouvent pas par hasard là parce que la morphologie, comme on l'a bien lu avec les membres, on voit très bien que chaque douar est là au-dessous d'une source. Ou bien deux douars qui se partagent la même source. Et donc toute l'organisation sociale, économique, culturelle, et tourne autour de cette ressource, je dirais, de vie, qui est l'eau. Et donc l'eau, elle est captée, il y a tout un système assez ingénieux pour drainer l'eau, pour la conduire jusqu'au bassin, et puis arriver au niveau du bassin, elle est stockée, et puis partagée selon des parts qui sont bien connues et que certains gardiens de la tradition essaient de maintenir jusqu'à aujourd'hui. Et puis, bien sûr, c'est chacun connaissait surtout, et puis on conduit l'eau vers les champs et vers les parcelles et puis vers les carrés d'irrigation. Et ça continue à exister jusqu'à aujourd'hui. Et l'eau est une propriété privée qui est connue, reconnue, qui peut être transmise aux descendants, héritée, vendue, etc., peut faire l'objet de toutes les transactions. Et donc toute la vie d'ici existe parce qu'il y a de l'eau. Et tant qu'il y a ce taux, on va continuer à être là, tant que les gens veulent être là. Et ça, on peut en parler, le rapport de tous les gens qui sont nés ailleurs comme moi, etc., pourquoi ils continuent à revenir, etc. Et donc, toute la vie, effectivement, il y a on peut appeler une organisation tribale de l'eau, bien sûr, mais sauf que c'est organisé au niveau d'une unité sociale qui est le douar. Voilà.
Donc le douar, c'est vraiment l'unité de...
Oui, c'est toute la vie économique, toute la vie sociale, économique, religieuse se déroule en fait au niveau des douars. Et c'est l'ensemble des douars qui vont former les fractions, et à partir de là, les fractions vont former le douar. Et les divisions politiques dont j'ai parlé, c'est au niveau des fractions, c'est pas au niveau des douars. On a, si on prend la tribu d'Ergita, on va trouver qu'il y a une partie des fractions qui sont dans un camp et une partie des fractions qui sont dans un autre camp. Et ils se divisent la vie politique. Mais à l'intérieur, la vie de tous les jours, là, pour produire, etc., c'est autour de l'eau d'irrigation. Et les grands conflits qu'on a connus ici entre deux fractions, notre fraction à nous et la fraction voisine, c'est autour de l'eau. Et puisque cette fraction-là était très forte, ils ont détourné toute la saguière. Et ils ont laissé crever de soif, etc. C'est pour montrer que l'eau était quelque chose de stratégique et de très très important. Et pour gagner la guerre, il faut tout simplement leur couper les vivres. Et donc il a fallu des interventions de personnalités un peu spirituelles, religieuses, pour apaiser les esprits, etc. Ce n'est pas de l'anecdote, c'est de la réalité, et ça continue à être perpétué par la tradition jusqu'à aujourd'hui. Et on dit que cette personne sainte leur a conseillé tout simplement de continuer, de commencer à avoir des relations matrimoniales, d'échanger les femmes. Et c'est de cette façon que les choses se sont un petit peu calmées. Et maintenant, nous vivons dans des rapports très cordiaux avec le voisin. Ma mère, moi-même, il est de cette... Ma mère et ma grand-mère sont de cette région-là, de cette fraction. Et maintenant, bon, il n'y a pas de problème. Si vous répondez justement à cette question de l'eau, c'est effectivement au niveau des douars que ça se joue.
Tu as grandi dans ce douar?
Non, je voulais tout à l'heure répondre à ça parce que moi je n'ai pas grandi de ce douar. Mon père est parti d'ici en 1942 exactement avec l'entrée des Américains à Casablanca et moi je suis né en 1953, donc je suis né grandi à Casablanca. Mais je revenais très très souvent. Pas très souvent, je dis, je revenais pendant les vacances scolaires, quand on était gosse, c'était 3 mois de vacances. Je me souviens que mon père prenait déjà les billets dans une société de transport tenue par les juifs, les sbarres qu'on connaissait très très bien, parce que mon père était fleuriste, il les connaissait très bien, il lui laissait toujours les premières places. Et dès le lendemain, il nous met tous dans l'air avec ma mère dans le car et on vient ici, et on reste 3 mois. Donc, et je vis avec eux. J'ai expliqué à tes collègues de l'USAE comment j'essayais moi aussi de marcher pieds nus parce que je voulais imiter les gosses parce que je me sentais un petit peu, pas comme eux. Donc, j'avais des sandales ou des choses comme ça et je les jetais pour pouvoir faire comme eux, marcher, avoir. Marcher sur les hippies, marcher sur les pierres, etc. C'est comme ça que beaucoup de choses, je les ai apprises avec eux, avec les gosses.
Est-ce que c'est comme ça que tu es devenu sociologue?
Je ne pense pas que ce soit comme ça, mais j'avais une sensibilité à écouter les vieux, parce que mon oncle était Mokaddam. À l'époque, en Mokaddam, c'était pas rien. C'était une grande notabilité et tous les gens de l'époque défilaient chez lui. Et j'étais là à m'asseoir et à écouter toutes les histoires qu'il racontait sur l'histoire de la tribu. Et ça, je peux dire que ça m'a donné l'envie de faire l'histoire de la tribu. Enfin, pas l'histoire, un travail sur la tribu. Et moi, tu le sais très bien, moi j'ai fait des études de sciences politiques, mais quand même je suis allé pour faire le mémoire de DES. J'ai fait un travail de sociologie. Bon, il est ce qu'il est, mais c'est un travail de sociologie. Et donc, ce travail est devenu pratiquement un petit document auquel se réfèrent beaucoup de gens que je connais maintenant, qui sont un peu partout, et qui le lisent, ça me fait énormément plaisir. Je remercie beaucoup l'ERCAM, parce que je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont trouvé. Moi, je l'ai jeté parce que j'avais pas le courage de le publier. Et eux, ils l'ont sorti, ils l'ont publié. Maintenant, je crois qu'ils ont rendu service à beaucoup de gens qui le lisent avec beaucoup de plaisir. Et il y a des choses que moi-même, quand je le lis, je les redécouvre. Et ça, c'est une réalité. Quand je lis ce travail, je découvre des choses parce que quand même, c'est 83, c'est très, très, très loin. aujourd'hui.
Ça m'intéresse. C'est une question qui m'intéresse beaucoup à un niveau intellectuel et même personnel. Je connais encore une fois, c'est pas des flatteries, je connais le sociologue que tu es, t'es cité pas seulement pour cet exemple, pour tout ce qui est sociologie rurale au moins, plus large, je sais que c'est aussi plus large, mais pour la sociologie rurale, tu reviens souvent dès qu'on parle de soit du Maroc, ça c'est l'évidence, mais même quand on parle des tribus, de relations entre de territoires, société et territoire et ainsi de suite, t'es souvent cité. Et moi, ça m'intéresse de comprendre comment le gamin d'ici, même s'il a grandi à Casa, t'as dit que ton père était fleuriste.
Oui.
C'est pas un haut cadre, c'est pas une notabilité, oui. Une grande notabilité. Tu descends pas de la grande bourgeoisie. Comment le gamin d'ici est devenu le sociologue qu'on connaît, que tout le monde connaît, qui s'appelle Mohamed Mahdi, le stade Mohamed Mahdi.
Je peux te dire que mon père était berger. Et moi, j'ai jamais compris comment un berger peut devenir un fleuriste. Qui a beaucoup appris le métier et lui, il a toujours remercié du fond du cœur les Français qui tenaient cette compagnie qui s'appelle Vita Fleur, qui lui ont appris ce métier. Et il est allé même jusqu'à décorer des trains de Hassan II, qui est pour lui une grande chose qu'il a fait dans sa vie. Et ça m'a toujours posé des problèmes quand je vois comment il arrive à faire les soit des couronnes, soit des bouquets, soit des ça. Alors maintenant pour moi, comment devient ce sociologue, c'est des histoires, je dirais des biographies personnelles. Je crois qu'il y a toute une histoire à raconter là-dedans. Le fait que je sois grandi dans un quartier de Casablanca, que j'ai connu des gens.
C'est lequel quartier?
Mon quartier, c'est le quartier Foukara, dont on est trop, trop, trop fiers. Foukara, ça veut dire pauvre, mais en fait, non, ça veut dire pas bon, ça veut dire le Foukara. C'est-à-dire les mystiques, etc. Parce qu'on est dans des quartiers qui s'appellent Foukara, Tolba, Sherfa, etc., qui sont mitoyens. Mais on est très fiers de dire Fourcala, ça veut dire des gens pauvres. On n'était pas très pauvres, mais on n'était pas riches du tout. On a Mastourine, comme on dit, on a de quoi vivre. Et je me souviens à l'époque, quand tu manges à ta faim, tu es déjà riche. Quand tu manges à ta faim, tu es déjà riche. Alors il y a tout un concours de circonstances sur cette histoire. C'est la fac de droit. C'est la rencontre avec certains collègues et amis. Je rappelle Mohamed Tozi, je rappelle Hassan Rachir. C'est la rencontre aussi avec Paul Pascon, qui nous a amené la première fois à Tiznit, à Tazrawalt. C'est la première fois en 79 qu'on a fait les premières enquêtes avec lui. C'est le fait aussi qu'on était depuis 1975 dans un ciné-club, dans l'un des meilleurs ciné-clubs du Maroc, et qu'on a beaucoup travaillé dans ce ciné-club, et que dans ce ciné-club, le cinéma, c'était juste un leitmotiv. Bien sûr, on aimait beaucoup le cinéma, les critiques du cinéma, mais c'était aussi l'occasion de lire des choses en dehors de tout ce qui est juridique, parce que c'était plus du juridisme que de sciences politiques, véritablement. Le fait qu'on a rencontré aussi des enseignants magnifiques, Bruno Etienne, Bruno Etienne aussi, et ces groupes-là, et cet entourage, cette ambiance qui nous a donné l'envie de faire quelque chose d'autre que le droit, et d'aller à la rencontre des sociétés, et d'aller à la rencontre des sociétés pour essayer de les comprendre et apprendre ce métier pour lequel on n'était pas préparé. On a tout appris dans les livres et sur le terrain. C'est pour ça qu'on est plus empiriste qu'autre chose. On travaille beaucoup sur le terrain. On n'a deux fois que des choses qui viennent du terrain. Et c'est comme ça que petit à petit, on a commencé à nous initier à la sociologie. J'ai fait ce premier travail qui a été apprécié, qui n'a pas été rejeté en tout cas. Je l'ai fait dans une fac de droit. Hassan Rachir aussi a fait un travail de sociologie sur les Zboul à la fac de droit. Tozi, pour le Palestine, il a fait même un travail sur un certain moment sur le cinéma, etc. Et voilà. Donc c'est comme ça qu'on est venu à la sociologie.
Tu fais partie de la génération, la mienne, hein, je dis. Et nos pays ne sont pas très différents dans leur évolution. Mmh. Hein. C'est une génération qui a été très attirée pour une grande partie de sa jeunesse de l'époque, quand on avait les 20 ans et ainsi de suite, par des métiers, entre guillemets, des métiers d'avenir, des métiers de sécurité, l'ingénierat, la médecine, la pharmacie, des choses comme ça, et très peu de gens de notre génération qui sont partis dans les sciences sociales. Oui. Et moi, ça m'a, en l'occurrence, c'est à toi que je demande, mais moi-même, je suis un peu dans ce questionnement, mais comme je connais quand même mon itinéraire, j'ai moins de problèmes avec ça. Mais pourquoi est-ce que le jeune qui tu étais n'avait pas eu envie de sécuriser sa vie, d'avoir un diplôme d'ingénieur? On était sûr de pouvoir travailler à l'époque, ou médecin, on apporte, hein. Pourquoi ces études de sciences sociales qui ne promettaient pas grand chose?
Non, d'abord, comme j'ai dit, j'étais dans des études de sciences politiques et qui promettaient beaucoup de choses. On peut faire de bonnes carrières, dans le ministère de l'Intérieur, on pouvait faire de bonnes carrières. Et il y a des gens qui ont fait des bonnes carrières aussi dans les affaires étrangères et tout ça. Vous pouvez faire de très bonnes carrières. Le problème, c'est que à l'époque, le problème du travail ne se posait pas. Et sincèrement, peut-être que j'étais inconscient, je ne pensais même pas à travailler. On était un petit peu dans c'est l'air du temps. On était dans une ambiance de l'éternel étudiant. Et on croyait qu'on allait rester tout le temps étudiant. Et c'est ça un petit peu.
Mais donc on faisait à l'époque, c'était aussi l'éternel étudiant de gauche.
Oui, l'éternel étudiant de gauche. Moi, j'étais jamais dans un mouvement de gauche réellement. J'ai jamais milité vraiment, mais j'avais une sensibilité de gauche. J'étais pour beaucoup de choses, pour le changement du pays, pour le changement de régime, etc. Mais la question du travail ne se posait pas. Je te dis que j'ai passé 3 années à faire mon mémoire de DES. Imaginez maintenant, les gens peuvent faire une thèse en trois années. La question de peut-être c'est de l'inconscience, Mais après, quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai intégré même avant de soutenir l'Institut agronomique et c'est parti comme ça. C'est aussi une autre chance pour moi. Parce que quand vous êtes recruté en tant que contractuel, on vous dit votre travail consiste à aller enquêter les éleveurs dans le Haut-Atlas, etc. Ben, je pouvais pas demander mieux d'aller me promener dans le Haut-Atlas avec un sac à dos.
Si, tu aurais pu rêver de vivre tranquille dans les quartiers riches de...
Non, mais c'est pour ça. Je peux pas rêver mieux que de faire ça. Parce que on me donne les moyens d'aller faire ce que j'ai envie de faire, et donc ils m'ont juste poussé vers encore d'approfondir certaines choses, et ils m'ont donné les moyens d'aller faire du terrain, parce que c'était ça mon travail, c'était aller faire du terrain. Et donc j'ai passé beaucoup de temps dans les Rirayas avec les éleveurs de Riraya et d'Orica, à l'Okaïmeden. J'ai passé tout le mois de la transhumance avec eux, et après, je retournais dans les vallées. Et c'est comme ça qu'on a fait pas mal de travaux avec Abdallah Hammoudi, avec Hassan Rachir. C'est comme ça que Hammoudi a écrit La victime et ses masques, Hassan a écrit Le travail sur les sacrifices et le repas sacrificiel, Marouf. Moi, j'ai fait ma thèse sur les pasteurs de l'Atlas, qui a encore une fois duré une dizaine d'années. Et voilà, c'est comme ça. Et puis, c'est après que je suis allé travailler à l'École nationale en tant que professeur en 1987, jusqu'à il y a quelques mois où j'ai pris ma retraite.
La sociologie rurale, c'était un choix?
Et qui s'est imposé?
Par rapport à la sociologie urbaine.
Il s'était imposé à nous, parce que d'abord, je suis venu, comme je te dis tout à l'heure, je suis venu faire une première monographie ici. La première fois où j'ai fait des enquêtes, je les ai faites à Tazrouet. Vraiment, la première enquête de démographie avec qui on travaillait à l'époque sur l'immigration, parce que Tazrouet et le sud du Maroc, comme ici d'ailleurs, c'était des zones d'émission d'immigrants, et c'était l'université à l'époque, l'université d'Amsterdam, qui était copain avec Faupin Pascon, qui sont venus faire un travail sur les immigrés, parce qu'il y avait beaucoup d'immigrés de la région qui étaient en Hollande. Et donc, dès le départ, j'étais dans le rural. Et donc, c'était aussi un retour, comme j'ai dit, vers le pays, etc.
Tu sais, très très souvent, et c'est souvent à la bonne place, hein, Paul Pascon, au-delà des relations personnelles, tu peux aussi en parler, mais au-delà des relations personnelles, ce qui m'intéresse, moi, c'est quoi ta relation avec Paul Pascon? Avant son départ, et
oui,
maintenant?
Oui, avant, c'est la relation d'un étudiant qui était impressionné, qui était très heureux d'être à côté de lui pendant quelques jours. D'ailleurs, je lui ai donné mon premier travail, qui était, d'ailleurs Hassan le raconte dans son dernier livre, il le regarde, il le lit, il vient me dire en arabe, parce que lui il parle très bien l'arabe, il me dit « Hachi indi kajish », c'est trop léger. Et imagine-toi, quand tu veux démarrer, quelqu'un que tu dis « Hachi kajish », tu lui dis à un étudiant maintenant, il est cassé. Et puis moi j'ai pris ça, j'ai dit « qu'est-ce que je vais faire de ça ?» À l'époque j'ai fait quelques lectures de Marcel Mauss, de Kurvitch, etc. J'étais très heureux de faire ça, et tu dis « ça chiche ». Et puis je suis allé le revoir dans son bureau. Il me dit oui, d'accord, tu vas aller faire un travail. Maintenant, tu vas rentrer chez toi et tu vas aller poser les questions. Comment les gens mangent? Comment ils appellent-ils les outils? Qu'est-ce qu'ils font avec l'autre outil? Quand est-ce qu'ils labourent, etc. Effectivement, il te poussait à faire un travail d'ethnographe. Il te poussait à aller observer. À commencer par la base matérielle, par le substrat matériel, comme dirait Gurvitch, et il nous poussait vers ça. Et il a toujours dit, maintenant, il faut absolument faire le maximum d'enquêtes, le maximum de choses pour connaître la réalité. Si vous voulez, par la suite, théoriser, si vous voulez faire des montées en généralité, comme on dit actuellement. Et c'était quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité, et qui a beaucoup d'amour aussi pour les jeunes, et qui voulait former les jeunes, ça c'est clair et net. Et quand j'étais à l'Institut agronomique, c'était pas avec lui que j'étais, mais j'étais avec Hamoudi qui m'a recruté dans un projet qui s'appelle Small Ruminant Project, qui est un projet d'un consortium d'universités américaines. Et j'ai travaillé en tant que sociologue là. Et d'ailleurs, lui, il est parti, il est parti à Berlin et puis à Princeton, etc. Il est resté là, garder l'immeuble et garder aussi les affaires. Et j'étais livré à moi-même. Ouais. Heureusement qu'il y avait Paul Bascon qui était à côté, tu lui donnes un texte, il peut le lire, etc. C'est difficile aussi de je veux pas dire que j'avais des relations avec lui, mais j'étais dans son sillage quand il fait des séminaires. Il faisait un séminaire le début de chaque mois, où il invitait quelqu'un qui est de passage ou quelqu'un universitaire marocain, etc., qui nous faisait des... Et là, on voyageait dans les disciplines, entre l'historien, l'architecte, etc. Et tout était possible, on écoutait tout, il n'y avait pas de sociologie, on écoutait l'histoire, et tout ça, c'est très formateur, et il était, lui, dans cet esprit. Et je crois qu'on a appris, en tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses de cette ouverture d'esprit, de cette possibilité de dire il y a toujours quelque chose à apprendre dans les autres disciplines, etc. Et voilà, c'est un peu le rapport. Moi je dirais peut-être que s'il était resté en vie, je ne serais jamais parti de l'Institut agronomique. Parce que c'est comme ça. Il peut pas laisser que ça partir comme ça, quelqu'un qui l'a... Même s'il va pas te dire qu'il t'a formé, mais... Oui, son empreinte est là, on peut pas la nier, il est là.
Est-ce que toi, tu peux dire que tu es un élève de Paul Bascon?
Tout le monde me dit que je suis élève de Bascon, les gens, parce qu'on était, on l'a côtoyé. Mais, j'étais dans cet environnement avec Paul Bascon, avec Abdel Mahmoudi, et j'ai appris des deux. Moi, je peux pas le nier. Moi, je ne nie pas la généalogie. Il y a des filiations. J'ai appris beaucoup de choses de leur manière de travailler. Ils étaient très, très différents de leur manière de travailler, de leur manière de se comporter, etc. Voilà. Et alors, je ne sais pas si je suis leur élève ou pas, mais en tout cas, je suis passé par cette école, j'ai appris beaucoup de choses d'eux, beaucoup de sensibilité. Avec Paul Bascon, c'est beaucoup de choses sur le rural, sur les stages surtout, les stages pour les étudiants. Ça, je l'ai appris de Paul Bascon. Même si j'ai jamais participé avec eux, j'ai lu les documents pédagogiques qu'il a fait et j'ai fait les stages pendant 7 ans. J'étais responsable de stage pendant 7 ans à l'école nationale de l'agriculture. Et c'est à partir de ces travaux, ces documents de stage qui sont des documents d'une grande richesse méthodologique. Et c'est pas moi qui le dis. Je le dis moi aussi. Mais il y a énormément de personnes de l'étranger qui sont passées et qui étaient impressionné par l'existence de ces manuels pédagogiques pour faire les stages. Ils existent jusqu'à présent, j'espère qu'un jour, parce que là, il y a tout un travail qui se fait sur les archives de Paul Bascon, et j'espère qu'un jour, on va reprendre tous ces travaux parce qu'ils sont d'une richesse méthodologique incroyable. Même si les gens ne peuvent plus, on ne veut plus, on n'a plus le temps, ou ils ont d'autres façons de voir le monde, de voir la formation, ça reste que c'est des outils très, très utiles pour faire le travail de terrain. Il y en a 3 ou 4. Un par niveau.
À un autre niveau, tu avais aussi une relation qui m'avait semblé assez forte avec Mohamed Touzi. C'est quoi cette rencontre? Vous êtes rencontrés dans la rue en jouant au football?
Pratiquement. Nous sommes des copains du quartier, comme on dit. Ben, on a joué au football, on a fait du ciné-club, on a voyagé. Nous sommes même mariés à des copines, etc. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui nous unissent. Avec Hassan aussi.
Hassan est aussi.
Oui, on a fait énormément de choses ensemble. Qui ne sont pas uniquement de l'ordre de l'académique, comme on dit, on a fait les 400 cours ensemble. Et puis on a fait beaucoup de choses ensemble. Mohamed Touzi est quelqu'un de c'est quelqu'un dont l'amitié est indéfectible. C'est quelqu'un qui a le sens de l'amitié. Mais il faut savoir être avec Mohamed Touzi parce qu'il est très très délicat dans ses relations, etc. Mais c'est quelqu'un qui aime les autres. Et donc cette amitié ne s'est jamais trahie jusqu'à aujourd'hui. Et ça continue dans les limites du possible parce que chacun est pris par son quotidien. Mais quand on s'en rend compte, c'est comme si on vient de se séparer hier. Donc pas de... Et c'est quelqu'un qui est, je peux le dire comme ça, qui m'a beaucoup aidé. Par exemple, moi, j'ai pas voulu publier le pasteur de Haute Atlas. Mais lui, il a insisté pour qu'il soit publié. Donc, il te pousse, voilà, il te pousse. Moi, j'ai toujours cette peur de mettre les choses comme ça pour le public, etc. Mais lui, quand il regarde, non, il dit, on va le publier, ça. Et ça, c'est quelque chose, finalement, qui t'aide, quelque part, qui t'aide, qui te permet de franchir un peu... une barrière comme ça psychologique qui t'empêche d'aller vraiment vers le grand public. D'ailleurs, je ne sais pas comment j'ai fait pour te parler de tout ça devant la caméra parce que c'est assez difficile pour moi.
Je te remercie.
Oui.
Beaucoup. Une dernière question personnelle et après on va aller vers des généralités. Enfin, personnelle, pas tant que ça. Mais moi, je me rappelle, j'étais impressionné. J'avais assisté à une communication et après j'ai lu le papier sur un papier où tu interrogeais le paysan à travers Ibn Khaldoun et un peu Ibn Khaldoun à travers le paysan. Je n'ai plus le titre de cette communication en tête. T'es Khaldounien ?
Non, pas vraiment. Si je dis ça, je vais mentir. J'ai lu un peu Ibn Khaldoun comme tout le monde, mais j'ai lu quand. Par exemple, quand j'ai besoin de Ibn Khaldoun, je reviens à lui.
En quoi étais-tu Ibn Khaldoun ? On peut encore appeler Ibn Khaldoun au secours quand tu fasses un problème ?
En tout cas, moi, sur cette question des paysans, de paysannerie, il m'a beaucoup aidé dans ses divinations, des bédouins et tout ça, comme j'ai essayé de le faire. Parce que tout simplement... J'ai pas trouvé d'équivalent en arabe pour le mot paysan, et donc il a fallu courir autour de plusieurs choses qui existent aussi chez Ibn Khaldoun, qui est distingué entre les gens qui font de l'agriculture, les gens qui font de l'élevage, et aussi qui font de rirasa, comme il dit. Moi, je me souviens pas de tous les termes, et ça permet, ça aide. À s'approcher de cette notion de paysan qui est très difficile à cerner dans l'époque actuelle parce que c'est pas comment j'ai pas su comment la définir dans un contexte où on voit les espaces où les paysans vivent sont vraiment ouverts de façon très 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 large. Les paysans ne vivent plus uniquement dans leur terroir. Ils sont connectés avec plusieurs milieux. Ils vivent de plus en plus en relation avec la ville. Ils commercialisent et toutes les définitions que même Andras ne correspondent plus à cette réalité paysanne qui a été définie aussi bien par Khaldoun que par la suite par Andras et toute l'école de sociologie française. Et donc il a fallu inventer autre chose. Même j'ai commencé à parler de citoyens de telle ou telle région parce que on trouve voilà, vous avez vu les gens d'ici, ils sont là mais en même temps ils passent au moins 3 jours à telle ou telle parce qu'ils sont obligés d'aller travailler pendant 3 jours, ramener 300 ou 250 dirhams parce qu'ils ne peuvent pas vivre uniquement de la paysannerie, uniquement du travail d'un paysan. Donc c'est un peu très très difficile de dire le paysan c'est celui qui vit de la terre, qui est ancré dans un espace, etc. C'est très très difficile. Même cette notion d'ancrage dans un lieu est très difficile à définir, parce que cet ancrage, voilà, moi aussi je suis ancré dans ce lieu, mais par moment, quoi. Je sais que je suis des disciples, je suis paysan, mais agriculteur, mais rien du tout. Mais j'ai une relation avec ce lieu. Comme tous les autres qui ont une relation plus forte encore avec ce lieu, mais qui sont obligés d'aller parfois travailler ailleurs, ramener un peu d'argent, parce que le travail du paysan ne fait plus vivre le paysan. Et si il compte uniquement sur le travail de la terre et sur le travail de l'élevage, il ne pourra pas vivre. Et on le sait, d'autant plus, ça devient d'autant plus grave que on sait maintenant que les gens, quand ils produisent, ils n'arrivent pas à vendre, ou quand ils produisent, ils vendent à bas prix, ou ils ne vendent plus, parce que tout simplement personne ne veut acheter chez eux. Et donc, ce sont des conditions qui se sont vraiment de la condition du paysan, c'est beaucoup, beaucoup détérioré. Et voilà, c'est un peu ça.
Il y a encore des paysans au Maroc?
Du moment qu'il y a encore des gens qui sont attachés à des espaces, à des pays, dans paysan il y a pays, c'est le fait d'être d'un pays, c'est le fait de travailler dans ce pays. Bien sûr, on peut dire qu'il y a un paysan, mais un paysan de notre nature. Un paysan qui est là, mais qui est ailleurs aussi. Vous avez rencontré le monsieur là qui est à la retraite, qui était en Tunisie. C'est à vous de me dire, c'est les paysans, quoi. Voilà, il a passé une partie de sa vie en Tunisie, tout en étant, en entretenant sa maison, en entretenant sa femme, etc., ici. Mais c'est grâce à son travail en Tunisie qu'il a pu entretenir cette maison, ses terrains, sa part d'eau, etc. Et maintenant, il revient. Et il reprend l'activité comme c'est, on a parlé de l'agroécologie hier, et des gens qui sont retournés, de la France, et qui se sont mis à faire de l'agriculture. Est-ce que ce sont des paysans? Est-ce que ce sont des immigrés? Est-ce que c'est très, tu vois, il y a une valse de nomenclature et ces statuts-là, ils sont pas figés. Ces statuts ne sont pas figés. C'est très difficile de les mettre dans une boîte comme ça. C'est très difficile, à mon avis. C'est flottant, c'est pour ça qu'il faut à chaque fois étudier les cas. Chaque fois, il était délicat. Ici, on a 150 maisons. C'est difficile de les classer. Tout à l'heure, celui qui a mangé avec nous, lui, pour moi, c'est un paysan. Il est là, il n'a jamais bougé d'ici, il ne connaît pas un mot d'arabe, mais il ne vit pas de l'agriculture toute seule. Parce qu'il a des enfants qui sont en France et d'autres à Casa qui lui vendent pas mal d'argent chaque mois.
Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que cette évolution de l'agriculture paysanne qui fait que le paysan n'est plus celui qui vit pour la plus grande partie du moins de la terre, est-ce que c'était une fatalité? Est-ce que c'est un prix qu'on paye, le prix du développement comme certains le disent? Est-ce qu'une autre politique agricole aurait pu maintenir le paysan tel qu'on le connaissait, tel qu'on le définissait il y a encore 30, 40 ans?
Non, ça peut être une vision un peu nostalgique, parce que les choses sont en train vraiment d'évoluer vers autre chose. Et ce qu'on remarque actuellement, c'est que tout, même ceux qu'on peut appeler encore aujourd'hui paysans, ils mettent leurs enfants dans des écoles. Ils veulent que leurs enfants réussissent. Ils veulent, si vous posez cette question dans n'importe quel questionnaire et dans n'importe quelle région du Maroc, il est simple. Est-ce que vous voulez que vos enfants soient aussi agriculteurs ou soient aussi éleveurs? Vous aurez 95% des gens qui vont dire non. On souhaite qu'ils aient une vie meilleure que la nôtre. On souhaite qu'ils aient une fonction. Très souvent, c'est la fonction, c'est-à-dire qu'il devient fonctionnaire. Fonctionnaire, c'est quelqu'un qui a un salaire sûr. C'est ça dans l'esprit de l'imaginaire de tous les gens. Et moi, j'ai pas entendu beaucoup de gens me dire qu'ils souhaitent que leurs enfants soient comme eux. Soit agriculteurs, soit éleveurs, etc. C'est pour ça que je dis, il y a des choses qui sont irréversibles. Maintenant, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a pas mal de jeunes qui ont fait une expérience à l'étranger, qui ont fait une expérience dans une ville marocaine, soit pour les études, soit pour les études et le travail, etc., et qui sont revenus chez eux pour s'installer en agriculture. Mais ce qu'ils souhaitent, c'est de faire l'agriculture autrement que leurs parents. C'est-à-dire qu'ils souhaitent faire une agriculture moderne, avec des équipements, qu'ils aient aussi leur voiture pour se déplacer, qu'ils aient leur casquette, qu'ils aient leur portable, etc. Et c'est le modèle qu'on a vu un petit peu se développer dans des régions comme ça, etc. Tu dis, moi, j'ai parcouru le monde, etc. Maintenant, j'ai 38 ans ou 40 ans, je rentre chez moi, je vais prendre le pain de terre. Et je vais le travailler, mais pas comme mon père. Je vais aller faire un système d'irrigation, je vais demander des subventions de l'État, parce qu'il y a le plan Marouffel, il y a ceci, etc. Et il réintègre l'agriculture, mais d'une autre façon. Ça, c'est pas des cas uniques, mais il y en a des cas et des cas. Et je soupçonne aussi que l'État ait compris ça. Parce que maintenant, rien que dernièrement, il y a des crédits qui sont lancés pour ces jeunes, pour se lancer dans des projets agricoles ou dans des projets touristiques, mais dans le milieu rural. Je crois qu'il y a quelque chose comme 8 milliards de dirhams qui sont mis à leur disposition. Une grande partie sera allouée à ce genre de jeunes qui veulent s'installer. Voilà un petit peu à la fois les choses qui sont irréversibles et aussi les choses qui peuvent donner espoir pour que l'agriculture, du moins, je dirais pas la paysannerie, mais des formes d'agriculture à dimension humaine puissent continuer à exister et puissent donner l'espoir et la possibilité à de tels milieux de continuer à vivre et à être vivaces, quoi.
J'ai envie de repartir sur une échelle plus large, plus macro, et après on reviendra à ces solutions ou à ces nouveaux phénomènes comme peut-être comme alternative ou pas, enfin on posera la question. Ma question, et elle est surtout pour le sociologue, hein, et l'observateur, le marocain observateur en général, pas seulement le sociologue, marocain observateur. Est-ce que, on va pas en faire le bilan maintenant, mais est-ce que quand même, en quelques mots, quelques phrases, tu peux nous dire dans quel état est l'agriculture marocaine aujourd'hui, le secteur agricole marocain aujourd'hui, et en quoi les politiques ont failli ou non, et si y a cette idée de, il y a eu des failles quelque part, de quelle nature elles sont?
Oui, alors on peut dire qu'effectivement au Maroc, depuis qu'il y a cette nouvelle stratégie qu'on appelle le plan Maroc vert, et dont l'importance consiste pour moi pas uniquement dans sa philosophie, qui peut être aussi discutable, mais aussi sur le fait que pour la première fois, une stratégie dispose de moyens pour la mise en œuvre. Et donc, dans cette mise en œuvre, on voit qu'il y a le développement de deux secteurs. L'un, justement, qui concerne cette paysannerie dont tu venais de parler, qu'on appelle, d'ailleurs, on l'appelle ni paysannerie, ni agriculture, ni agriculteur, on l'appelle agriculture solidaire. C'est-à-dire mettre un peu d'argent pour développer un certain nombre de projets, clés en main, etc. Et de l'autre côté, tout un secteur qui est très mécanisé, très très développé, qui tourne surtout vers l'exportation, etc., et qui pèse 90% dans l'ensemble du budget qui était alloué au plan Maroc vert. Maintenant, jusqu'à présent, il n'y a pas de vraie évaluation du plan Maroc vert. On n'en a pas. Mais en travaillant sur le milieu rural, en allant voir les projets qui ont été développés dans le pilier 1, autour de grandes fermes qui appartenaient à l'époque à l'État, qu'on a concédé à des grands groupes ou à des particuliers qui ont monté des sociétés, etc. Bien sûr qu'il y a une avancée au niveau de la production. Ça, c'est clair, net. Il y a une avancée au niveau de la production dans tous les secteurs. Mais il y a des problèmes au niveau de la commercialisation. Et rien que l'année dernière, le secteur des agrumes a connu une crise lamentable. De façon à telle enseigne que la mandarine s'est vendue à 50 ou à 10 dirhams le kilo, etc. C'était un petit peu catastrophique à cause de la surproduction. Parce que c'est une surproduction qui n'a pas été planifié et suivi, accompagné par des possibilités de commercialisation, notamment à l'étranger. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ça, c'est l'observation qui dit ça. C'est les choses qu'on observe. La deuxième chose, c'est que c'est cette nouvelle agriculture très développée, très mécanisée et très consommatrice d'eau, très consommatrice de pesticides, très consommatrice d'engrais, etc., chimiques. Et tout ceci, personne n'a mesuré ou évalué l'impact environnemental de cette agriculture. De ce côté-là, on n'a pas de chiffres. Mais on estime que sur ces deux côtés-là, il y a un problème. La réussite au niveau de la production, de la productivité, de, je dirais même, n'a pas été compensée ou suivie par une réussite au niveau de la commercialisation et surtout au niveau de l'impact environnemental. Et je ne veux pas parler de l'impact social, parce que là aussi, on n'a pas idée, on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça crée comme emploi, qu'est-ce que ça crée. Mais on sait qu'à côté de chaque ferme, il y a des droits qui sont devenus des pourvoyeurs de main-d'œuvre. Ils se sont transformés en usine de main-d'œuvre qui est mise à la disposition de ces... Et les fermes se font concurrence pour fidéliser ces droits. Mais tout ça, c'est de l'observation, c'est des choses comme ça qu'on voit à la faveur des sorties sur le terrain, à la faveur des visites, à la faveur des visites guidées avec des groupes ou avec des étudiants, etc. Mais rien de systématique n'a été fait. Et donc, à mon avis, c'est ça. Maintenant, sur le pilier 1, on va pas très loin. Juste ici, on a un projet, pilier 2, pardon, qui est de l'agriculture solidaire. On a planté ici quelque chose comme 25 000 arbres, rien que dans le Doubs, mais il y a d'autres Doubs qui en bénéficient aussi. On a une route, tout ça est louable. Mais sur le plan de l'efficience, je dirais. Vous avez vu que la route, il est dans une partie, il est mal faite, parce que tout simplement, c'est des entreprises qui ne font pas bien leur boulot, qui ne sont pas suivies, etc. Et donc, il y a des pertes dans ce sens-là. La même chose pour l'agriculture. Moi, je ne pense pas qu'on va avoir des réussites à 100%, parce que les gens n'ont pas la possibilité de changer leur système. Heureusement que les gens ne rentrent pas dans la reconversion, parce que ces projets-là, on demande aux gens de faire de la reconversion, de se reconvertir des céréales vers l'arboriculture. Heureusement que les gens ne font pas ça. Et dans une bonne partie des cas, vous allez voir que les gens vont planter tout autour de la parcelle et non pas à l'intérieur de la parcelle pour continuer à faire. Et moi, je dirais tant mieux. Et aussi, il y a le grand problème, c'est l'eau. Partout, c'est la même chose. Il y a problème de l'eau, il n'y a pas assez d'eau. Vous voyez que les gens, il y a pas mal de petites expériences où les gens essaient de mettre des petits bassins pour irriguer quelques arbres, etc. Et c'est vraiment des formes d'agriculture maintenant qu'on est en train de développer ici pour lutter contre ces effets de... Alors, de ce côté-là, c'est là aussi, on n'a pas une évaluation pour nous dire comment cet argent qui a été investi dans ces piliers, dans le cadre de ces piliers, c'est quel est le résultat obtenu. Mais là aussi, on a tout simplement des choses qu'on observe par-ci, par-là, il n'y a pas de travail systématique. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de résultat et ça a été promis pour le dernier salon de l'agriculture. Ça, on n'a rien vu et on continue toujours à attendre.
Pour l'eau, ça a commencé depuis les politiques de l'eau, ont commencé depuis longtemps et à chaque fois dans la même direction avec de plus en plus d'utilisation de l'eau. Sans parler de l'époque coloniale, évidemment, là où les premières infrastructures ont été construites. Oui. Après, il y a eu le projet de Hassan II d'un million d'hectares et après, là maintenant, je crois qu'il y a plus d'un million et demi d'hectares, je crois, si mes sources sont bonnes.
On est, oui. On est vers 2 millions d'hectares. Mais le problème avec le plan Angleterre, c'est aussi le fait d'encourager par des subventions le creusement de forages de puits et aussi la mise en place de ces grands bassins géoplasmes, etc., qui ont des étendues énormes avec des capacités.
Et ça va où? Où est-ce qu'on va?
Moi, je pense que, je ne sais pas, parce qu'à chaque fois où vous parlez avec ces gens, ils disent, cette année, on a eu un problème d'eau. Et donc, la solution, c'est d'aller encore creuser. D'aller encore faire d'autres forages, mais je pense qu'un jour ça va clasher, parce que vous allez autour, il y a des paysans quand même, et très souvent il y a une concurrence dure, et ces petits agriculteurs ou ces petites exploitations agricoles ou moyennes exploitations agricoles, peut-être qu'un jour ils pourront pas survivre. Et je me demande même jusqu'à quand, même si les grandes exploitations vont encore survivre. Maintenant, on trouve des solutions. Par exemple, dans le Seix, il y a tout un barrage qui a été mis en place, justement pour pouvoir utiliser l'eau de barrage pour irriguer cette plaine, qui est une plaine qui produit beaucoup de choses, l'oignon, les pommes de terre, les fruits, les légumes, etc. Parfois il y a des solutions, mais les solutions n'existent pas toujours.
Des solutions provisoires. On n'augmente pas l'eau en construisant un barrage. On aménage à peine sur le plan technique une meilleure gestion de l'eau, vraiment de la comptabilité de l'hydraulique, mais pas. On fabrique pas de l'eau.
On la fabrique pas. Ce qui se fait, c'est là où il y a la possibilité de la collecter. On la collecte dans des barrages. C'est-à-dire l'eau des crues, l'eau qui se perd et qui va ailleurs. Là, on peut la capter. On la capte. Sinon,
Je crois avoir lu que le Maroc a déjà dépassé les 120% d'utilisation de ses ressources hydrauliques.
Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais dans certaines régions, on commence à utiliser même l'eau qu'on considère comme l'eau stratégique. Et ça, pour moi, c'est pas moi qui le dis, mais c'est des rapports dont l'État même a foi, notamment ceux de la Banque mondiale. Et quand la Banque mondiale devient un peu critique par rapport à ce qui se fait, donc c'est la fin du monde. Et dans des régions comme Boudnib, les fermes qui sont de 1000 hectares pour produire du mejoul, etc., ils vont aller chercher l'eau vraiment très, très, très profondément.
J'ai une question très bas de niveau. Oui. si je peux me la permettre quand même. Demain, Mohamed Mahdi est nommé ministre de l'Agriculture, responsable des ressources hydrauliques. Ça serait quoi votre première action?
Ça ne va pas se produire. On va même pas me nommer, secrétaire de l'École nationale d'agriculture.
Au-delà de la réponse personnelle, pourquoi? Est-ce que parce que tu as un regard qui est trop critique sur ces questions-là, ou parce que tu es dans un autre...
Non, mais sur le plan vraiment de l'équité, je trouve que parfois, qu'on fait un peu trop. Quand je vois qu'on est en train de produire j'ai visité avec les étudiants l'année dernière des fermes juste ici, près de Terrelent. Quand je vois que des groupes qui viennent de je ne sais où utilisent l'eau du Maroc, l'eau du Marocain, pour produire des choses de Bruxelles, ou pour produire vraiment des légumes que je ne connais même pas, etc., pour les exporter, parce qu'il y a des marchés en Hollande et dans d'autres pays qui sont friands de ces produits, qui n'arrivent pas à trouver à des moments bien précis de l'année, etc. Je suis un petit peu révolté. Et voilà. D'un autre côté, je regarde et je dis, eux, ils font ça, mais pourquoi on le ferait pas nous? Il y a un problème pour moi d'équité à tous les plans. Et leur réponse à eux, elle est très simple. Même, on a déjà donné la terre aux petits et ça nous a conduit à la faillite, et bien sûr, référence faite à la réforme agraire, parce qu'on a distribué 350 000 hectares à des petits paysans, à des anciens ouvriers, et que ça n'a pas marché. Et on peut pas s'attendre à une autre réforme agraire. Même si tu es ministre, tu peux pas demander actuellement une réforme agraire. Et même si tu discutes de cette iniquité, si tu veux, dans l'accès à la terre, les gens vont te taxer de socialiste attardé ou de quelqu'un qui veut encore nous ramener le système communiste alors que le libéralisme a fait ses preuves, etc. Des gens haut placés qui peuvent te tenir ce discours quand tu dis voilà, les terres dans telle ou telle région sont en train d'être spoliées, sont en train d'être mises à la disposition de groupes étrangers ou de groupes même marocains, etc., pour faire le développement de l'agriculture. Ce qui est en train de se passer actuellement, c'est qu'on essaie d'avoir énormément de terres, on parle d'un million d'hectares, c'est pour encore encourager l'investissement dans l'agriculture. Et quand on dit l'investissement dans l'agriculture, c'est pour des gens qui ont de l'argent à investir. Et ce genre de choses, je ne sais pas si j'étais ministre, si j'arriverais à les stopper, parce que même, je crois, même un ministre ne peut pas stopper ça, parce que les lobbies, les gens qui sont derrière tout ça, ils sont très très forts, et c'est eux le pouvoir. Moi, je ne pense pas qu'un ministre a le pouvoir de faire quoi que ce soit, parce que le pouvoir, il est tenu par ceux qui le détiennent actuellement et qui décident de tout. Et qui décide de tout, de la politique, y compris du moment où ils doivent prendre de la terre, du moment où ils doivent la distribuer, et de la manière de la distribuer. J'allais dire entre eux.
On a fait du terrain ensemble dans la région de Metz,
oui.
Il y a deux ans.
Oui. Et aussi en Tunisie.
Ah.
Et en Tunisie.
Et en Tunisie. Et on a pas mal travaillé, un des points sur lesquels on avait beaucoup axé, notamment au Maroc, c'est sur le travail agricole.
Oui.
Travaille dans le milieu agricole, le salariat agricole, oui. Si je peux dire, pour être plus précis. Est-ce qu'on peut dire quelque chose là-dessus? Quelle est la situation du salariat agricole? Est-ce que ce n'est pas une source? Je pense que forcément, avec le développement de l'agriculture intensive destinée à l'export et ainsi de suite, forcément, on l'a vu ensemble, on a vu des bourgs se constituer. Des douars se constituer autour des grandes fermes avec des formes de fidélisation, tu l'as cité là, tout à l'heure. Est-ce que c'est tout ce qu'on peut espérer à cette masse de ruraux? Certains d'entre eux étaient paysans, sont encore en partie paysans dans le sens de travailleurs de la terre. Hein. C'est quoi? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est une chance pour certains? C'est quoi tout ça?
Dans le contexte actuel, effectivement, avec je dirais, on peut appeler ça le développement de l'agriculture intensive, etc. Que ce soit au niveau des grandes exploitations, ou que ce soit au niveau même des petites exploitations, il y a une demande accrue de la main d'œuvre. La famille ne suffit plus à répondre à tous les besoins d'une culture. Et on l'a vu avec l'oignon, on l'a vu avec la pomme de terre et surtout avec l'oignon. Donc même une petite famille, s'il a un hectare, il doit recourir à la main d'œuvre. Maintenant, cette main d'œuvre, elle est là, elle n'est pas illimitée. Il y a des demandes qui sont concentrées à des moments donnés de l'année. Et donc, cette main d'œuvre se trouve dans des lieux où les gens qui en ont besoin viennent la recruter. Alors maintenant, les conditions de travail, et ce sont des conditions de travail très précaires. C'est-à-dire, ce sont des gens qui travaillent à la journée, qui ont aucune forme de sécurité ou de sécurisation. C'est-à-dire, ils travaillent, et puis ils sont payés, ils partent. Alors, dans ces conditions, le travail n'est pas assuré toute l'année. Et donc, c'est des gens qui sont dans la précarité, dans toute la vie. Les conditions de travail sont très dures. C'est des gens qui se réveillent très tôt pour revenir très tard le soir. Et d'autres choses, il y a beaucoup de femmes qui travaillent. Il y a beaucoup de femmes, de plus en plus de femmes qui travaillent. Et quand on fait juste un premier travail de sociologie très très rapide de ces femmes qui travaillent, on va trouver que c'est des femmes dont les conditions sont très 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 précaires. C'est des divorcés, c'est des mères célibataires, c'est des vieilles femmes qui entretiennent un mari invalide, etc. C'est vraiment des conditions vraiment qui rappellent des conditions du 19e siècle. Alors dans ces conditions, moi je dirais que le travail en agriculture, même s'il leur donne un petit peu d'espoir, parce que peuvent gagner un peu d'argent, ce n'est pas, à mon avis, ce n'est pas tout à fait ça. Parce qu'il n'y a aucune législation qui va les protéger. Ils n'ont pas d'autres droits que le droit d'avoir un salaire. Et puis les conditions dans lesquelles elles travaillent, c'est pas ça, notamment pour les femmes, les harcèlements, les viols, etc., etc. Ça, c'est très, très connu. C'est tout le monde en parle. Maintenant, dans les grandes fermes, ils ont l'obligation de par le cahier de charge, surtout pour les fermes qui obtiennent les subventions de l'État, d'engager des ouvriers et de leur donner tous leurs droits. Et là aussi, ça reste opaque. Tu te souviens, on a déjà fait des enquêtes sur ça, et ça reste opaque. On ne sait pas quelle est la part de gens d'abord qui sont permanents. Ça, on peut le savoir plus ou moins, parce que les permanents, il a dit papy, etc. Et les autres, d'après la législation, même s'ils travaillent une journée, tu dois le déclarer. Mais on ne sait pas si tout ceci est suivi, pas suivi, etc. Rien que le gars de tout à l'heure, je sais qu'il travaille dans une groupe très, très connu ici dans la région, mais il ne peut pas dépasser 6 mois. Il travaille 6 mois, il doit partir parce que au-delà de 6 mois, ils doivent être déclarés, ils doivent avoir tous les droits. Et donc, on joue avec la législation et pour maintenir toujours cette masse d'ouvriers agricoles dans la précarité. Et ça, je crois qu'il y a des avancées à faire pour que vraiment cette agriculture puisse avoir un impact social qu'il doit avoir. C'est-à-dire donner du travail à des gens qui en ont besoin et qui peuvent faire beaucoup pour l'agriculture, les former, leur donner une instruction, etc. Et je pense qu'il y a des choses à faire parce que c'est très souvent des gens qui ont un métier, qui ont une expérience, mais en contrepartie, ils n'ont pas beaucoup de droits à part le salaire, comme j'ai dit.
C'est d'autant plus compliqué qu'on sait très bien que la précarité produit de la précarité
oui.
en passant par la case pauvreté.
Oui. Oui.
Et au Maroc, on sait que c'est l'un des pays où la pauvreté rurale est particulièrement élevée.
Oui, oui. Et c'est pas comme ça qu'on va essayer de la réduire. On ne peut la réduire qu'en légiférant, à mon avis, qu'en contrôlant, qu'en donnant aussi des droits. On donne à ces gens des droits. Parce que jusqu'à présent, les gens sont dans le morph, tu vois. Les gens sont dans le morph, dans un sorte de marché de travail, et on va les prendre. Et c'est au hasard. Tu peux ne pas travailler pendant 2 jours. Ça dépend de celui. Et je pense même qu'il y a des sortes de mafias qui organisent tout ça. Parce que c'est pas un contact entre l'employeur et l'employé. Non, il y a des intermédiaires là aussi, comme il y a des intermédiaires entre l'agriculteur et le consommateur. Il y a des intermédiaires qui contrôlent tout ça, qui négocient avec les ouvriers, qui négocient avec l'employeur, etc. Et tout ceci passe par des petites mafias là qui sont bien organisées et qui maintiennent ces gens dans cette précarité dont on a parlé. Bien sûr, on peut se demander pourquoi ils ne sont pas organisés dans des syndicats, des choses comme ça. Je sais pas, des gens qui... Très souvent, c'est des gens analphabètes. Très souvent, c'est ça le problème. On trouve parfois des jeunes, et garçons et filles qui ont un certain niveau. Mais imagine quelqu'un qui a un certain niveau, qui vient travailler... dans une exploitation agricole avec des gens qui n'ont ni respect pour le travailleur, ni respect pour la femme, ni respect pour rien. Moi, je pense que la souffrance est double pour quelqu'un comme ça. Et moi aussi, je me suis toujours demandé pourquoi ces gens ne sont pas organisés. Parce qu'ils constituent quand même une force. Et sans eux, rien ne peut se faire. Est-ce qu'ils ne savent pas qu'il y a la force, ou bien est-ce qu'ils sont dans l'obligation de vendre leur force de travail parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ce qui est le cas de beaucoup de gens. Ils sont déjà très heureux qu'ils trouvent une journée ou deux journées de travail. Mais la situation est à mon avis, très, très dure. Et moi, les petits témoignages que j'ai entendus, surtout de femmes, sont poignants. Et c'est là où on se rend compte que parfois, c'est très dur. C'est toujours des femmes qui sont en train d'entretenir soit des gamins, d'un mariage légitime, mais aussi des mariés impotents. Très souvent, c'est ça, aux vieux, ou des choses comme ça. Et c'est un peu très dur.
Oui, il y a eu plusieurs travaux et publications sur cette question. Ouais. En général, et de travail salarié agricole en général, salarié informel, hein, non déclaré. Ouais. Et quand on sait que certaines personne, et comme d'habitude, certaines femmes, parce que la majorité, c'est des femmes.
Oui, et parce que les fermiers, les employeurs préfèrent les femmes. Parce qu'ils disent, ils résistent, qu'est-ce que ils sont patientes, ils acceptent.
Parfois, elles vont plus que ils sont beaux. Le mécanisme des normes sociales et la notion d'honneur et de la honte et ainsi de suite font que elles sont soumises à des choses dont elles ne peuvent même pas dénoncer publiquement.
Ouais.
Donc quand on est face à des situations comme ça, c'est un peu difficile.
L'harcèlement, une organisation, le viol carrément, oui.
Je suis vers la fin, mais tout à l'heure tu as toi-même évoqué à deux reprises, si je me rappelle bien, les tentatives d'agroécologie. Et puis on sait qu'un peu partout il y a des choses qui se développent. Des individus ou des groupes qui développent des discours sur la permaculture, l'agroécologie. Est-ce qu'on peut les envisager sérieusement comme des alternatives possibles, ou est-ce que ça reste de l'ordre des choses, des belles idées qui restent un peu à la marge?
Ouais, j'ai fait cette petite enquête sur l'agroécologie dernièrement. Et c'était intéressant, fascinant. Je me suis vraiment approché de cette philosophie. J'ai adoré. Surtout avec ces histoires de la sobriété heureuse et tout ça. Mais moi aussi, je me suis très souvent posé la question de sa viabilité. Les défenseurs de cette agriculture disent qu'on peut vivre avec ça, qu'on peut nourrir le monde avec ça. Mais quand je vois, moi, je suis un petit peu sceptique. Parce que quand je vois qu'eux-mêmes n'arrivent pas à s'en sortir, avec cela, en tout cas c'est la conclusion la grande conclusion qu'on a tirée de tout ça, c'est qu'ils n'arrivent pas à se suffire avec le travail agricole. Ils sont obligés de mettre à côté soit de l'hébergement, soit de l'accueil à la ferme, soit des choses comme ça qui sont plus du tourisme rural que d'autres choses. Et donc, ils sont obligés de mettre les deux en balance. Alors maintenant, la production de la perma ou de l'agroécologie ou même du biologie, je suis un petit peu sceptique par rapport rien qu'au marché. Rien qu'au marché, parce que dans un pays comme le nôtre où les gens sont pauvres, où la pauvreté est assez importante, tu mets deux patates et tu dis ça coûte un dirham, et c'est là, ça coûte deux dirhams. Les gens vont fermer les yeux, vont choisir celle d'un dirham. Mais si tu lui expliques que c'est là, il nourrit au fumier, c'est là, il nourrit aux pesticides, il prend celle des pesticides parce que c'est pas cher. Quand j'ai vu l'agroécologie, j'ai vu que quand ils ont commencé, leur clientèle est une clientèle assez particulière, c'est des diplomates de Rabat, c'est des gens qui, puis c'est des universitaires, etc. En gros, c'est des gens qui ont un peu d'argent. C'est des gens qui ont peur d'avoir le cancer ou à qui on a expliqué que les pesticides amènent le cancer, etc. Qui ont une conscience une nouvelle conscience de la santé, du corps, etc. La chose que d'autres personnes n'ont pas, qui n'ont pas déjà les notions d'écriture et de la lecture, etc. Et c'est ça qui me rend un petit peu sceptique par rapport à l'avenir de cette agriculture, sauf si on arrive à emballer une grande partie de gens qui vont se lancer dans cette forme d'agriculture non conventionnelle et qui peuvent mettre sur le marché des quantités énormes de produits qui deviennent concurrentiels par rapport aux autres. Et à ce moment-là, on peut avoir le choix, je pense. On peut avoir le choix et les gens peuvent venir facilement. Mais le temps, le différentiel de prix est très important et aussi la conscience agroécologique n'est pas la même chez tout le monde. Et ça demande encore du temps. Je sais pas, un pauvre ne pense pas à la... Tu vois, d'ailleurs, on le voit dans les autres pays du monde, les gens qui mangent mal, ce sont les pauvres qui sont gros, qui sont malades, etc. Et pas les autres. Parce que les autres, ils peuvent choisir. Ils vont pas manger des choses pleines de pesticides, ou pleines de sucre, ou pleines de... Voilà. Et il y a toujours une relation entre niveau de vie et état de santé.
Le changement climatique, c'est une menace sérieuse. Est-ce que l'intellectuel que tu es prend au sérieux cette question?
Moi, je le prends pas en tant qu'intellectuel, je le prends en tant que quelqu'un qui a connu cette région depuis quand j'étais petit. Et je vois qu'il y a une avancée du désert, ça c'est clair et net. Vous tournez la caméra, là-bas, ce qu'on voit là-bas, c'était tout cultivé. Maintenant, on cultive juste la partie d'en haut, parce qu'il n'y a plus assez d'eau pour irriguer l'ensemble. Ce terrain, c'était tout irrigué. Maintenant, regarde, ce qui pousse, c'est le figuier de Barbarie. Parce qu'on n'irrigue plus. Donc, il y a quand même, rien qu'ici, il y a pas mal de petites sources qui étaient, ici, on buvait l'eau de source. Je vous ai pas montré notre source. Il y a une petite source là, on peut boire l'eau. C'est l'eau qui s'infiltre et qui, il y en a deux ou trois qui n'existent plus. Et donc, pour moi, le noyer est en train de disparaître. Et l'olivier qui n'a jamais pu résister ici, ma mère.
On est à combien de mètres?
On est à 1400.
D'accord.
Il y a 1400. Et on peut aller jusqu'à 1500, là où on était tout à l'heure. Et le noyer, l'olivier n'a jamais pu réussir ici à cause des neiges parce que, voilà, c'est un arbre qui ne perd pas ses feuilles et puis, voilà, les branches qui peuvent se casser. Maintenant, il y a depuis une vingtaine d'années, ou même plus, on a des noyers, on a des oliviers, il y a des gens qui ont des olives. Moi, je crois à ça. Je suis pas sceptique par rapport à ça. Au contraire, je le vois. Je le vois. Et les quantités de pluie, c'est pas ça. On a visité le bassin. Moi, je me souviens que ce bassin, il était plein à ras à 5h30, 6h du matin. Maintenant, les gens ouvrent le bassin à 11h du matin. Donc, c'est quand même assez...
On parle de combien d'années entre les deux?
35 ans, comme ça. Une trentaine d'années. Sur une trentaine d'années, les choses ont beaucoup, beaucoup changé. Et donc, pour moi, c'est une réalité palpable, tangible. C'est pas...
Ton fils ou ta fille te demande, papa... Je veux m'installer ici. Je veux trouver un moyen pour travailler dans l'agriculture ici. Tu lui dis, laisse tomber, c'est pas une bonne idée, ou tu lui dis bonne chance, tu lui dis quoi?
Franchement, j'ai pas de pouvoir sur ma fille.
Non, je sais.
Mais sur mon fils.
Je sais, justement, mais c'est pour ça que je te dis. Juste bonne chance, je t'encourage.
Mais je sais qu'elle est, c'est une fille intelligente, qui est en train de monter même qui a monté une société à Paris. Et s'il monte, s'il a envie de faire ça, c'est qu'il a de bonnes idées de le faire. Et je l'encouragerai.
Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.themagrepodcast.com ainsi que sur iTunes, Podbean, Spotify et d'autres applications que vous trouverez sur le même site. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Maghreb in Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. À bientôt pour un nouvel épisode.